RMC Football Show, l'After Foot, François Pinet.
C'est parti pour l'After jusqu'à minuit sur RMC à la radio, à la télé sur RMC Sport News. Ravi de vous retrouver dans un instant. On revient sur la victoire lyonnaise à l'instant face à Bourges. Victoire 2-0. Est-ce qu'il faut retenir le résultat ou parler un petit peu de la manière? On en parlera évidemment de la manière avec laquelle les Lyonnaises sont qualifiées pour les 16e de finale. L'exploit de Viry-Châtillon, club de régional 1. Tombeur d'Angers, puis Montpellier et Nîmes passent aussi à la trappe, ce sera dans un petit quart d'heure. Et puis Adrien Rabiot, tout sourire à l'entraînement sur une photo postée sur les réseaux sociaux. On parlera du cas d'Adrien Rabiot, est-ce qu'il doit quitter le PSG dès le mois de janvier? Ce sera dans 30 minutes, on vous donnera aussi les infos mercato dans l'after avec du lourd qui arrive tout de suite du côté de l'AS Monaco, enfin tout de suite, bientôt, ce week-end peut-être. Fabregas et Pépé en tout cas sont annoncés, sans oublier les questions de l'after à une semaine de la reprise de la Ligue 1. Est-ce que virer un entraîneur peut inverser la tendance? On vous attend au 32-16 sur le hashtag RFC Live sur Twitter ou encore sur l'appli RMC Direct Studio. Dans l'after ce soir, Ali Benarbia. Salut Ali.
Salut François. Bonne année, meilleurs vœux.
Meilleurs vœux et bonne année aussi 2019 pour toi. Ludovic Obraniak, on va pas se redire bonne année.
Non, on va pas se redire. Mais je l'ai pas dit Ali.
Salut Ludovic,
bonne année. Il est tout bronzé.
Bonne santé.
Et bonsoir à tous.
Avant de parler de Lyon qui vient donc de se qualifier pour les 16e de finale de Coupe de France, on va tout de suite faire un détour par le rugby. Laurent Depré, Racing Toulon.
Bonne année François. Écoute, on est rentré dans les 5 dernières minutes de cette rencontre et c'est avantage au Racing 92 face au RCT 22-13, mais 3 essais à 1 et donc plus de bonus offensif pour le club francilien et encore 4 minutes à jouer et le bonus défensif est envisageable pour le RCT, il faudrait pour cela marquer un essai.
Merci Laurent. On parle donc de Lyon qui s'est qualifié. Vous l'avez suivi sur RMC en battant Bourges 2-0, ça se passait à Bourges, club de National 3, Bourges, l'équivalent de la 5e division. Débute de Terrier, débute de Mendy, on retient seulement le résultat ou et on oublie la manière? Ali.
Pas spécialement la manière, mais je pense sans dire cette équipe de Lyon vraiment vraiment en danger face au Berruyer.
Ah, tu les as pas sentis en danger?
Non, pas spécialement, dans le sens où
pourtant moi j'ai vu un très bon Anthony Lopez.
Hein. Oui. Ça c'est sûr, mais il faut attendre qu'il y ait un but pour voir un petit peu la réaction d'une équipe. Si les Berruyers auraient ouvert le score, là on aurait pu voir la réaction. Mais on a vu que tant qu'ils prenaient pas spécialement de but et qu'après ils savaient qu'à un moment ou un autre ils allaient mettre un but, la Coupe de France c'est pas spécialement de dominer pendant 90 minutes, c'est surtout de faire en sorte de pas prendre de but, d'en mettre un voire un deuxième. C'est ce qu'ils ont fait. Maintenant, ces matchs, on sait très bien, dans des terrains, on l'a vu très gras, très lourd, ne sont pas du tout évidents, et il y en a beaucoup qui chutent, la preuve en est. Et Lyon s'en sort avec un des zéros, parce que faut regarder toujours la fin du match. On regarde souvent la première mi-temps ou le premier quart d'heure. Ça veut rien dire dans un match.
Ludo, toi, tu es comme Ali, tu trouves qu'il faut pas trop voir le contenu du match?
Le contenu n'a pas été si mauvais, en tout cas sur la première période, oui, mais sur la deuxième période, je trouve que Lyon est rentré avec d'autres ambitions, un autre état d'esprit qui leur a permis de prendre la main assez rapidement sur cette équipe de Bourges qui n'a pas démérité contre un Lyon plutôt ronflant un peu en première période. Ils auraient pu éventuellement ouvrir le score et revenir à la marque. Mais au final, c'est un score qui me paraît logique puisque Lyon a accentué sa domination et a eu la maîtrise sur cette deuxième période. Donc c'est en toute logique que Lyon accède au prochain tour.
Alors les cas individuels quand même, il y a un cas sur lequel j'aimerais bien vous entendre, c'est le cas de Moussa Dembélé qui a eu énormément d'occasions, qui était titulaire ce soir, l'attaquant qui vient du Celtic, et qui a été très maladroit.
Je pense pas que ça soit sur un match de Coupe de France que Genesio va le juger. Il sait qu'il est en concurrence, il y a beaucoup d'attaquants, ça va être sur les matchs de Ligue 1, ça va être sur les rentrées en Champions League quand il aura besoin de lui, s'il a besoin de lui. C'est beaucoup plus sur ces matchs-là que sous prétexte qu'il le met titulaire parce qu'il laisse reposer Fekir et d'autres attaquants.
Il était suspendu.
Ouais. Oui, complètement, que automatiquement il va dire Moussa Dembélé doit jouer, il a sa chance, il doit mettre un triplé. Non, c'est pas du tout comme ça. C'est qu'il vient d'arriver, il faut qu'il progressivement s'habitue au club, à à l'équipe, et on a vu d'autres joueurs comme Memphis Depay mettre beaucoup de temps, et je pense que le vrai Moussa Dembélé, on va le voir sûrement en fin de saison et la saison prochaine.
Là, c'est quoi le vrai Moussa Dembélé?
Parce que c'est le joueur qu'on a vu au Celtic.
Oui, c'est le joueur qui a été recruté 22 millions d'euros.
Toute l'attaque jouait pour lui. Ouais. Attention, là c'est Fekir, c'est Memphis Depay.
Dans un autre championnat aussi, un championnat d'Écosse.
Même si, on l'a vu jouer même en Champions League ou en Europa League, être très très bon la preuve année. Mais surtout, si tu laisses partir Fekir et tu joues pour Moussa Ndembélé en attaque avec les Cornet, les Aouar, les Memphis Depay, les Traoré qui lui donnent un maximum de ballon, je pense qu'on aurait un autre joueur. Mais il faut lui laisser le temps.
Non mais Ali se place du point de vue de Genesio. Donc quelle pourrait être l'opinion de Genesio après ce match-là? Bien sûr que c'est pas préjudiciable pour Moussa Dembélé pour la suite des événements, mais pour lui, pour sa confiance personnelle, je pense que peu importe la hauteur du match, quand tu sors d'un tel match où tu as eu autant d'occasions et que tu es justement en recherche de confiance, le fait que sur 5 occasions t'aies pas réussi à en placer une, notamment une toute faite, bon, on peut parler du terrain aussi, hein, qui a pas aidé sur cette action-là. Mais c'est vrai que c'est jamais bon pour un buteur, même si c'est sur un premier tour de Coupe de France, de pas pouvoir les enquiller. Donc, je suis pas inquiet pour Moussa Dembélé parce que c'est quelqu'un qui a du caractère et qui va revenir dans la danse. Mais bon, c'est pour lui, c'est pas une bonne soirée.
Ça dénote que même si tu as des qualités physiques, des qualités footballistiques très intéressantes et devant le but où il plante tes buts sur but, quand tu arrives dans une équipe et que tu n'es pas le joueur important et que tu n'as pas la confiance du coach et même des joueurs, parce que les joueurs, dès qu'ils ont le ballon, ils vont facilement trouver Fekir, Depay, Aouar, et peut-être après Dembélé quand il joue. Et ben là, automatiquement, le joueur, c'est plus le même.
Parce que peut-être qu'il n'a pas tu parlais des qualités techniques du joueur, il n'a peut-être pas les mêmes qualités justement qu'un Depay et qu'un Fekir.
Non, on l'a vu. Bien sûr, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont les qualités de Memphis Depay ou Fekir à Lyon.
On voit quand même un joueur assez maladroit, et pas seulement sur ce match, c'est vrai que la pelouse n'aide pas. Les matchs précédents aussi avec l'Olympique Lyonnais, on a vu un joueur qui était assez maladroit. Alors toi, tu dis que c'est un problème de confiance, c'est parce que l'équipe joue pas pour lui. Est-ce que c'est pas plutôt un problème de qualité du joueur ?
Non, il a la qualité physique, on l'a démontré. Il a la qualité technique quand il se sent bien, mais un joueur, et on le dit souvent, hein, la preuve année, j'ai vu des joueurs super forts, et sous prétexte que le coach, il avait dans le nez, ou alors il lui faisait pas confiance, ben, il faisait des contrôles à 4 mètres. Le même joueur qui, lui, habituellement, le ballon, il colle au pied. Donc c'est aussi important. Mais ça, il n'y a que les joueurs qui peuvent le voir. Alors que quand on le voit de l'extérieur, on comprend toujours pas que ce même joueur, tu parles au coach du Celtic qui le trouvait phénoménal, et on le sait combien il l'a acheté, il va te dire, mais qu'est-ce que vous lui avez fait? Voilà, c'est ça.
Alors, en même temps,
je parle pas du niveau du championnat, ça n'a rien à voir. Domaine technique.
Mais après, bon, voilà, tu le cites, la confiance entre un joueur qui est titulaire indiscutable, porté par ses partenaires, avec la confiance de son coach, considéré comme l'un des meilleurs joueurs et qui arrive à Lyon en doublure et qui attend son tour, qui a la peine à trouver le chemin défilé, quoique à son arrivée ça s'est plutôt pas trop mal passé, mais depuis un certain temps
il cherche sa place. Toutes compétitions confondues, c'est 4 buts en 13 matchs.
Faut regarder les minutes
de Ligue 1, mais effectivement il est pas souvent titulaire.
Je pense pas qu'il a fait 18 matchs titulaires.
Le passage entre son statut du Celtic et son statut à Lyon fait que la perte de confiance est visible. Et que il va falloir un petit peu de temps à Moussa Dembélé pour retrouver sa pleine confiance.
C'est comme si on disait qu'Atem Ben Arfa, il avait perdu toute sa technique et qu'il perdait beaucoup de ballons au PSG. Comment un joueur qui est aussi fort qu'Atem Ben Arfa, d'un coup, il savait plus comment jouer et perdait tous les ballons au Paris Saint-Germain. Pourtant, on sait que le joueur est fort techniquement.
Alors on va prendre Romain au 32-16 dans l'after à 22h55. Salut Romain.
Bonsoir messieurs.
Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous dans l'after, de nous rejoindre pour parler donc de la qualification de l'Olympique Lyonnais. T'es un supporter lyonnais, c'est ça ?
Oui, exactement.
Alors, est-ce que tu partages l'avis d'Ali et de Ludo qui ont vu plutôt une bonne équipe de Lyon face à un club de Bourges, pourtant seulement en National 3 ?
Disons que sur la deuxième mi-temps.
Oui, oui. Ça y est déjà, tu joues.
Non, c'est ce que je te dis, j'ai parlé de la deuxième mi-temps.
Géré pour
ce qualifié. J'ai dit une belle deuxième mi-temps. Par contre, ce que je n'ai pas dit et j'ai pas eu le temps de le placer, j'ai trouvé assez inquiétant que contre une équipe du niveau de Bourges, j'ai trouvé qu'il s'était créé quand même beaucoup d'occasions et que la défense, excepté de Neuer, avait été plutôt inquiétante.
Donc ça peut être inquiétant face à une équipe.
Non mais Ludovic, comme en Ligue 1,
Oui,
c'est toutes les équipes se créent des occasions contre Lyon.
Ali, Ludovic, on va demander à Romain son avis justement sur ce match. Vas-y, Romain.
C'est ce que j'allais dire. Moi, après, je trouve pas ça inquiétant que Bourges ait eu des occasions, puisque toutes les équipes de Ligue 1 et autres ont des occasions contre nous. On a une défense qui est assez friable, on sait tous. Heureusement que on a eu un grand Anthony Lopez dans les buts qui fait deux parades exceptionnelles, dont une double parade.
Comme souvent cette saison.
Comme souvent cette saison et comme souvent les autres saisons. Donc non, c'est pas inquiétant que qu'on ait eu des occasions contre nous. Après, si on regarde bien, on est l'une des rares équipes de Ligue 1 à bien s'en sortir, puisque ça a été un peu une hécatombe entre hier aujourd'hui. Donc non, voilà, on est passé. Je pense que la Coupe de France, comme la Coupe de la Ligue, ça fait partie des objectifs du club, puisque bon, le championnat c'est mort et la Ligue des Champions, n'en parlons pas. Donc la Coupe de France et la Coupe de la Ligue doivent faire partie des objectifs de l'Olympique Lyonnais. Je pense qu'effectivement on peut aller au bout de cette compétition. Juste un mot pour en revenir, parce que vous étiez sur le débat Moussa Dembélé. On voit avec cette équipe, depuis l'année dernière d'ailleurs, qu'il y a un problème avec les numéros 9, parce que quand on regarde Mariano, qui était là l'année dernière, Mariano était un peu esselé, il se créait des occasions tout seul. Donc c'est lui qui allait chercher les buts, c'est lui qui allait provoquer, et il n'y avait pas de cohésion avec justement les Fekir, les milieux de terrain, tous ceux qui étaient un peu créatifs. Et on le retrouve avec Moussa Dembélé, sauf que Mariano est arrivé, il était jeune, il avait la niaque. Et Moussa Dembélé, j'ai l'impression qu'il a moins la niaque qu'à Mariano et qu'il attend plus de ses coéquipiers, alors que justement le schéma tactique il n'est pas fait pour avoir un numéro 9, on va dire un peu en pivot et un peu en renard des surfaces. Ouais. Il faudra avoir peut-être un numéro 9 qui joue un peu plus au ballon, qui redescend un peu plus et qui se crée beaucoup plus d'occasions avec les milieux.
Alors Romain, c'est très intéressant ce que tu dis, donc tu vas rester puisqu'on va faire juste un petit détour par le rugby puisque c'est terminé, Laurent, entre le Racing et Toulon.
Oui, pour valider la victoire du Racing qui fait une belle opération avant d'aller disputer un match en Ulster pour la Coupe d'Europe et une qualification pour le quart de finale. Victoire du Racing 92 sur le score de 22-13. Le Racing qui revient à la 5e place ex aequo avec Lyon. Pour Toulon, on reste scotché à la 11e place. Toujours pas de points à ramener de l'extérieur, mais quand même beaucoup de mieux et des motifs d'espérer pour une année 2019 meilleure que le début de la saison en 2018. Bonne soirée messieurs.
Bonne soirée Laurent, merci beaucoup. Romain disait qu'il y a un problème d'avant-centre à Lyon, en tout cas que l'équipe de Lyon a depuis plusieurs saisons un peu de mal à jouer avec son numéro 9. Vous partagez son avis ?
Joue avec des dribbleurs, Memphis Depay, Fekir, Bertrand Traoré, Nawar qui va venir.
Des joueurs qui aiment bien le ballon, qui aiment bien le garder.
Qui aiment le ballon. Arrive un moment, quand tu distribues pas à l'attaquant de quoi manger, et que soit tu dribbles, soit tu gardes quand ça t'arrange, automatiquement, même si l'attaquant est très bon devant le but et face au but, et que il répète les appels de balles, je coupe au premier poteau, au deuxième poteau, arrive un moment, ça doit être frustrant pour un attaquant.
Après, c'est pas un problème de profil, quoi. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément trompés de profil d'attaquant. Parce que Mariano avait quand même le profil, Romain, je sais pas si t'es encore là, d'un joueur assez égoïste.
Oui, il est assez égoïste, mais pourquoi? Parce que ses coéquipiers jouaient pas forcément avec lui et le recherchaient pas forcément dans la surface. Donc lui, il était buteur, il voulait marquer des buts, donc qu'est-ce qu'il faisait pour ça? Il allait chercher le ballon lui-même et allait se provoquer les occasions lui-même.
Quitte à oublier donc, parfois ses coéquipiers.
Quitte à oublier parfois ses coéquipiers, donc c'est pour ça aussi que on voyait que c'était un joueur de caractère, parce qu'il allait provoquer, il oubliait parfois ses coéquipiers, mais quasiment à 60-70%, ça marchait, il marquait des buts. Il a marqué énormément de buts pour une saison et pour un joueur de son âge à l'OL.
23h dans l'after. Vas-y Romain.
J'aimerais si Ali me permet. J'ai un ami qui est fan du PSG, qui est fan de toi. C'est son anniversaire aujourd'hui. Si tu peux lui souhaiter son anniversaire, ça ne te dérange pas.
Comment il s'appelle?
Avec plaisir.
Sébastien. Il a 40 ans aujourd'hui.
Ah ben Sébastien, bon anniversaire pour tes 40 ans. Et fais la fête.
Merci, c'est super sympa.
Voilà Romain, on a fait la petite dédicace. Merci beaucoup Romain d'être passé dans l'after.
Merci,
on continue à parler de Lyon, donc reste bien à l'écoute. Ludovic, tu voulais rajouter quelque chose peut-être sur ce jeu à la lyonnaise, hein. C'est vrai que c'est le débat depuis plusieurs semaines,
c'est
plusieurs mois,
voire
plusieurs
années. Pour revenir sur, rebondir sur le ce que vient de dire Ali par rapport à la relation technique entre les coéquipiers et justement ce rôle de numéro 9 qui peut être un rôle parfois ingrat. Sur les matchs que j'ai pu voir de Moussa Dembélé au Celtic, c'est un joueur qui était beaucoup dans la spontanéité. C'est quelqu'un qui réclamait souvent le ballon en profondeur et qui profitait de milieu de terrain autour de lui qui lui donnait souvent le ballon d'une touche de balle. Donc il avait l'habitude de partir, on le voit assez fréquemment, il est souvent hors jeu du fait de ce que tu as évoqué précédemment, du fait qu'il y ait trop de touches de balle et qu'on joue pas toujours, on le joue pas toujours dans la première intention.
Mais là, il en a eu des occasions. Moi, c'est ça que je trouve un peu surprenant dans votre discours, parce que, enfin, surtout dans le tien, Ali,
c'est pas compliqué.
Je le vois quand même avec le ballon. Il a eu des ballons, il a eu des occasions, sauf qu'il a été maladroit devant le but.
Oublions Moussa Dembélé et regarde la plupart des attaquants lyonnais.
J'ai trouvé que Terrier, par exemple, a eu moins d'occasions.
Terrier
mais
joue très peu. Mais la plupart.
Non, mais là, sur ce match. Hein.
Non, mais la plupart. Oui, mais pas spécialement sur le match. On le juge surtout. La plupart des attaquants, Fekir, Memphis Depay, Cornet, à chaque fois, on leur dit, mais qu'est-ce qui leur arrive? Et à chaque fois, ils se mettent en danger. Pourquoi? Ils mettent un but quand ils font trois face à face. Et en général, à ce niveau-là, il te faut deux occasions face à face au gardien pour en mettre une.
Après, quand tu compares là, Moussa Dembélé à Terrier, ce qui fait la différence, c'est sa qualité technique. Sa qualité technique.
Ah bah voilà.
Mais bien sûr qu'on est d'accord. Il a un profil moins technique que d'autres.
Non, mais Terrier, probablement. À centre, tu vas voir. Hein. C'est pas le même travail.
Ouais.
Mais voilà, là où Terrier fait la différence, un très bon contrôle sur un centre en retrait de Ferland Mendy. Il arrive à se positionner le ballon tout de suite pour pouvoir. Il fait le geste juste derrière avec son petit enroulé.
Mais pas de il a disparu, notre ami Terrier.
Alors, il joue pas beaucoup.
Non. C'est déjà à Strasbourg.
Oui, oui.
On en a fait un moment de... Après, il a disparu complètement.
23h02 sur RMC, vous êtes dans l'after. Dans un instant, on va parler de l'exploit de Viry Châtillon. C'est l'un des plus gros exploits de l'histoire de la Coupe de France, puisque Viry Châtillon, club de 6e division de Régional 1, a sorti Angers 1-0. Il y a deux autres clubs de Ligue 1 qui sont tombés aujourd'hui. C'est Nîmes qui s'est incliné 3-0 face à Lyon-Duchère, on y reviendra. Et Montpellier qui a été battu 1-0 par l'Entente Sannois-Saint-Gratien. Lyon-Duchère et l'Entente Sannois-Saint-Gratien sont des clubs de National. Autre résultat, ça passe pour Amiens, Guingamp, Caen, Dijon côté Ligue 1. Orléans, club de Ligue 2, sort Le Lamentin, le club de Martinique, 3-2 après prolongation.
Attention.
Ça s'est joué à pas grand-chose. Bastia également, s'est qualifié, club de National 3 contre Concarneau, club de National au pénalty. Marignane, c'est une surprise, a battu Clermont, club de Ligue 2, au tir au but. Les Herbiers, le finaliste de l'an dernier, s'est imposé 2-1 à Tours.
Non mais c'est drôle, c'est quand même...
Puis Bergerac a battu Niort 2-1, ça c'est pour les surprises, puisque Bergerac a
une surprise aussi. C'est drôle, ces clubs qui ont une histoire coupe. Et ils n'iront pas souvent. Moi, je connais des bons clubs, même du côté de Narbonne, chez moi. J'ai jamais vu un Coupe de France. Jamais de la vie. J'entends plusieurs clubs où on les revoit.
Bah, les Herbiers, c'est pas la première fois. Alors, ils étaient finalistes l'an dernier, mais ils arrivent régulièrement à faire.
Il y a les mêmes noms qu'on retrouve souvent, se retrouver entre 32e, un 16e. C'est quand même, il y a des équipes d'histoire.
C'est souvent des clubs qui sont capables de grandes choses sur un match.
Oui.
Mais qui manquent de régularité dans leur championnat.
C'est vrai.
Et c'est-à-dire, alors, ça s'explique comment, ça?
T'as des équipes comme ça.
T'en as aussi un championnat, j'en ai vu beaucoup.
Qui misent tout justement sur l'histoire, l'historique d'un club où justement la Coupe de France est une donnée importante et qui se transcende.
Qui donne tout là-dessus.
Le jour de la Coupe de France et qui, sur des saisons avec où il faut avoir un peu plus de régularité et prouve plus de difficultés.
Ce qui est terrible pour les Herbiers, par exemple, c'est que ils ont été finalistes, on s'en souvient, et qu'ils sont descendus ensuite.
Voilà. Mais tu parles, le PSG. PSG était vraiment un club de coupe. Aussi bien en Coupe d'Europe qu'en Coupe de la Ligue.
Ça allait encore. Hein.
Ou en Coupe de France. Non, mais c'est pour ça.
Ils gagnent tout.
C'est impressionnant. C'était sur un aller-retour ou sur un match, ça a toujours été un club de coupe.
Bon, n'hésitez pas à nous écrire sur l'appli RMC Direct Studio ou sur le hashtag RMC Live. Par exemple, Aouar Terrier Dembélé me dit Red, c'est l'attaque de l'équipe de France Espoir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs lyonnais qui sont prometteurs et qui maintenant atteignent même l'équipe A. Un petit mot quand même, un dernier mot sur Lyon avant de passer à l'exploit du jour de Viry Châtillon. Objectif Coupe de France, Romain, l'auditeur tout à l'heure nous disait que ça devait être un objectif, la Coupe de France et la Coupe de la Ligue pour Lyon. C'est essentiel de faire un parcours, d'aller chercher le titre.
depuis, de c'est quoi, 2012, c'est ça?
Oui. Ça fait 4 ans la Coupe de France que
on parle du bon, championnat, le Paris Saint-Germain, mais il y a quand même
titre.
La Coupe de la Ligue, la Coupe de France, il y en a d'autres qui l'ont gagné. Comment ça se fait que Lyon ne ramène pas un titre à Lyon? Et ça, c'est une chose importante.
Et c'est important sans doute pour Bruno Genesio aussi. On se rappelle que l'an dernier, ils avaient été sortis en quart de finale par Caen. Ça n'avait pas du tout plu aux supporters, cette élimination en Coupe de France.
Bah, comme le rappelle Ali, à partir du moment où en championnat, ça paraît plié déjà à la mi-saison, les seuls moyens qui te restent de remporter un trophée, c'est bah, la Coupe de la Ligue, parce que c'est le plus court, mais c'est la Coupe qui ne représente pas grand-chose à mes yeux. Pour moi, la Coupe, c'est la Coupe de France.
Ouais.
C'est la plus belle et c'est la plus glorieuse.
Puisqu'elle peut-être la plus difficile à aller chercher parce qu'il y a beaucoup de
joueurs. Parce qu'elle réunit aussi tous les éléments.
C'est pas dans tous les championnats. Je sais pas si c'est pas que la France où il y a tous les clubs, je veux dire, qui ont le droit de jouer la Coupe de France.
En Espagne quand même.
Parce qu'en Angleterre,
en
Espagne, non.
La Coupe du Roi, quand même.
Non, c'est pas là, c'est tous les clubs amateurs. Hein. Même en Espagne, ou même en Angleterre, ou même en Allemagne, ce n'est pas tous les clubs amateurs.
Et on le sent, il y a le charme de la Coupe de France, et notamment ces résultats que l'on voit aujourd'hui. Et c'est ce qui fait que quand tu la gagnes, elle a une saveur bien plus particulière. Que l'autre coupe qui est la Coupe de la Ligue.
Mais j'aimerais bien encore qu'on reste comme du temps où je la jouais moi. Tu jouais si c'était à domicile contre un club de dixième de l'heure, mais tu jouais chez eux. Maintenant avec toutes les protections et tout ce qu'on fait, automatiquement il y a et financièrement, ils cherchent des grands stades et automatiquement ça donne autre chose.
Ouais, ben justement, c'était le cas pour le Lamentin qui est obligé, mais ça c'est le règlement, hein, puisque ça doit être joué à partir des 32e de finale en métropole. C'est pour ça qu'ils ont joué à Orléans alors qu'ils avaient été tirés au sort en premier. On va parler de Viry-Châtillon tout de suite, donc le club de Régional 1 qui a sorti Angers. Ça c'est un exploit historique. Ça faisait 33 ans que un club de 6e division n'avait pas sorti un club de Ligue 1. La dernière fois c'était Toulon qui avait été sorti. Voilà, une victoire 1-0, alors qu'Angers avait quand même aligné une équipe quasiment type. Hein. Il y avait Butel, il y avait Romain Thomas, il y avait Doy, il y avait Mangani, il y avait Capel, il y avait Baoken. Alors, parmi les excuses avancées, c'est la pelouse. Hein, vous avez vu le terrain. Pierrick Capel dit « Un terrain de rugby, c'est dur pour jouer au foot. Cela ne laissera pas de traces parce que le contexte est tellement particulier. C'était un match à part avec des conditions catastrophiques. » Voilà ce que dit le milieu de terrain d'Angers. Excuse recevable ?
Conditions catastrophiques, c'est quoi ? Est-ce qu'il y a eu du vent, d'un coup beaucoup
la pelouse,
de pluie ?
La pelouse était catastrophique.
Je suis désolé, la pelouse, non. Je suis pas d'accord. Qu'il puisse avoir une mauvaise pelouse, oui, mais là il y a tellement une différence. C'est pas une deuxième division, c'est une différence division tellement énormément d'écart qu'on peut même pas parler de pelouse. Dans le sens que quoi, même l'adversaire s'y défend un certain temps, t'as les qualités au niveau de la frappe, au niveau des coups francs, des corners sur une ou deux actions de faire la différence, ce qui n'a pas été le cas. Donc là, tu peux pas prendre des excuses. Maintenant, si tu tombes sur un terrain enneigé, boueux, avec beaucoup de vent, beaucoup de pluie, un carton rouge au bout de quelques minutes de ton côté et tout le monde qui se met derrière, ça peut arriver.
Ouais.
Ce n'est pas le cas.
Excuse recevable ou pas?
En aucun cas.
Pourtant, c'est ce qu'ils disent tous, hein, effectivement.
Bah, écoutez,
ça nivelle sans doute le niveau.
Si ça leur permet de se rassurer, je suis pas sûr.
Non, mais ça doit niveler le niveau.
Combien de divisions différentes?
Bah, c'est la sixième division.
Donc, est-ce que tu penses qu'on peut vraiment niveler le niveau entre six divisions?
C'est quelques actions, notamment. Alors, c'est peut-être dû encore à la maladresse des attaquants, là. Tu vas me dire ça aussi, mais Baoken, qui se retrouve en face à face, qui, à cause de la pelouse et d'un rebond, n'arrive pas à frapper dans le ballon. Voilà, il y a quelques actions comme ça où la pelouse joue son rôle.
Tu le vois? Qu'il va y avoir des rebonds, que c'est boueux et tout, t'as la qualité technique pour faire une feinte de frappe, le mettre bien au sol et après le mettre. Ça, tu as toujours. Quand tu vas plus vite que des joueurs de 6 divisions, tu peux aller 10 fois plus vite, physiquement, techniquement et dans les déplacements, pour mettre le ballon juste comme il faut et faire la différence. Et après, 1-0, ben, ça change tout. Tu prends tout ton temps, tu gères, et t'attends les espaces.
C'est pas recevable aussi sur le plan, bien sûr, ça nivelle les compétences.
Ils ont quand même marqué, hein.
Sur le plan technique. Mais sur le plan de l'agressivité, sur le plan de l'envie, ils se sont fait bouffer, Angers. Donc là-dessus, ils n'ont pas su répondre. Donc,
ta
première excuse, elle n'est pas recevable. Tu dois pouvoir faire la différence. Sur ce plan-là, tu dois pouvoir répondre, donner du répondant. Or, ça n'a pas été fait. Viry a complètement mérité sa qualif.
Et on parle d'un club qui, à la base, c'est quoi? C'est l'envie, hein, l'abnégation et
la dalle angevine.
Et l'agressivité. Alors, si eux ne l'ont pas, face à des matchs Coupe de France. Quel club de Ligue 1 là?
Ben justement, on va demander à Stéphane au 32-16, supporter d'Angers, qui est avec nous sur RMC dans l'after à 23h10. Salut Stéphane. Stéphane?
Ah ben il a été comme un jeu, lui aussi.
Bah, Stéphane, on le retrouvera dans un instant. voilà, on parlait donc d'Angers qui a été battu un but à zéro. Ce genre de match de Coupe de France, vous en avez joué?
Oui.
Des matchs pièges.
Ah, okay. Oui, il y en a beaucoup.
Ça vous plaisait? Vous y alliez avec envie, avec motivation, oui. Ou vous disiez bon, on a quand même une marge par rapport à l'adversaire?
Parce que t'avais pas autant de matchs que ça avant. Donc Coupe de France, c'était important. Que ça soit pour un grand club ou un petit club de deuxième ou de première division, match de Coupe de France, c'était un match de Coupe de France. Il fallait passer les tours. Donc bien sûr que c'était important. Et quand face à toi, t'avais toute une ville ou tout un village avec des joueurs qui couraient comme des lapins au bout d'une heure, qui pouvaient s'essouffler, mais qui pendant une heure couraient de partout. On aurait dit qu'ils étaient deux fois plus. Bien sûr que c'est des matchs intéressants à jouer. Et puis c'est la Coupe de France, tu l'attends. Alors que de nos jours, bon, il y a des joueurs qui jouent tellement de matchs qu'ils disent la Coupe de France, mais t'as beaucoup de clubs qui n'ont pas autant de matchs que ça. Faut pas regarder le PSG, Lyon, Monaco. Je parle de tous les autres clubs. On prend l'exemple d'Angers. Bien sûr que le maintien est important, mais la Coupe de France aussi.
On va pas se mentir, les premiers tours de Coupe de France, c'est pas la même motivation pour tout le monde. Dans un vestiaire, t'en as qui sont plus impliqués que d'autres. Mmh. Moi, j'ai toujours aimé cette coupe parce que j'ai toujours eu un profond respect pour le football amateur. Pour moi, c'était rendre un peu, renvoyer l'ascenseur que d'être prêt et de donner le meilleur de moi-même sur ce type de match-là. Après, la vérité, c'est que on se trouve là, les clubs de Ligue 1, tu vois, il y a toujours des excuses du terrain, de l'arbitrage, on n'était pas prêt. La vérité, c'est qu'il y a un peu de crainte aussi. Mmh. Franchement, c'est-à-dire que même parfois le niveau fait que ben tu arrives sur ce premier tour de Coupe de France et c'est le club pro qui est craintif par rapport au petit qui va jouer, parce qu'il sait que dans l'histoire de la Coupe de France, eh ben ça arrive souvent que tu sortes. Donc tu attaques ce match pas parce que t'es pas motivé ou pas préparé. Des fois c'est juste un soupçon de peur face à une équipe en face qui n'a rien à perdre,
ça peut être
et qui arrive à faire la différence. Et quand l'équipe en face arrive justement sur les premières minutes à te bousculer, c'est difficile de revenir dans le match.
Non, et avant, t'avais pas autant ce turnover, Ludovic. T'avais les titulaires qui jouaient, et t'avais peut-être 4 ou 5 qui tournaient légèrement en deuxième ou en première division. Donc en Coupe de France, t'avais l'équipe type. Ouais. Non, t'as plus ou moins.
Il y a pas eu beaucoup.
Écoute,
de turnover.
Moi, j'ai été voir Montpellier cet après-midi. Voilà. C'était l'équipe type. Montpellier, c'était l'équipe type. Nîmes, je crois, que c'était aussi.
Il y avait quelques changements, mais très peu.
Et quand je joue avant, t'avais pas autant de joueurs qui ne réussissaient pas au centre de formation, qui se retrouvaient dans les clubs et qui étaient pratiquement pas professionnels, je veux dire. Ouais. T'avais beaucoup, énormément des amateurs qui travaillaient toute la semaine, je veux dire, qui s'entraînaient très peu et qui se retrouvaient à jouer contre toi et qui au bout de, si tu les faisais courir, au bout de la 45e minute, ils avaient des crampes. Ce qui n'est pas le cas, là.
On a retrouvé Stéphane au 32-16. Salut Stéphane.
Oui, bonsoir messieurs, meilleurs vœux.
Salut meilleur Stéphane, vœu à toi aussi. Et pour l'année 2019, ça commence mal pour toi et pour surtout ton club, supporter d'Angers, je le rappelle, avec cette élimination. Comment tu prends la chose, éliminé par Viry Châtillon?
Alors déjà, moi, j'ai pas pu voir le match, mais apparemment, il y a un
exploit
qui l'a vu. Et comment moi, ce qui m'embête un tout petit peu, c'est justement le manque d'envie à l'occasion de ce premier tour là de la Coupe de France. Moi, ça m'embête un petit peu, et puis c'est quelque chose d'assez redondant, parce que j'ai lu sur l'équipe.fr, ils ont raté encore beaucoup d'occasions, et c'est quelque chose qui revient en permanence. Le dernier match à Copa, on a raté énormément d'occasions contre Marseille. Et c'est quelque chose, on manque de réalisme. Alors en plus de ça, ce soir, il n'y avait pas l'Agnac. Donc à un moment donné, il va falloir marquer des buts, parce que le ratio pour le moment pour le SCO d'Angers, c'est à peu près 7 occasions pour un but. Je crois que depuis le début du championnat, ils ont jamais pu marquer 3 buts. Et donc c'est vraiment très très embêtant.
C'est pas lié qu'au terrain. C'est pas lié qu'au terrain d'aujourd'hui.
Mmh. Oui, voilà, exactement. Je crois que leur gardien Da Silva a dû dès la 10e minute, Santa Maria doit marquer, il fait un super barré, Mangani aussi. Bon, après, ça s'est enchaîné chez Rendoy à la 80e minute. Donc, c'est quelque chose d'assez récurrent. On n'est pas assez tueur devant le but et il nous faut beaucoup trop d'occasions pour marquer.
Oui, non, mais c'est vrai qu'on a vu beaucoup d'occasions de la part d'Angers, notamment Bahoken aussi, et c'est vrai que il manque peut-être un grand attaquant. Le départ de Karl Toko Ekambi n'a sans doute pas été remplacé comme il faut, à Angers, Mais c'est difficile de trouver un remplaçant.
Alors, apparemment, je crois que vous allez peut-être me confirmer l'information. Je crois que Bauken, lorsqu'il joue à Strasbourg, il joue plutôt sur l'aile. C'était pas un vrai numéro 9. Il commence à trouver ses marques, Stéphane Bauken. Mais c'est vrai que systématiquement, lorsque le SCO d'Angers joue contre une équipe, le gardien fait un match absolument extraordinaire. C'est absolument systématique et on devrait avoir au moins 8 à 9 points en plus par rapport à ce manque de réalisme. Donc je crois qu'il va falloir travailler dessus. Ouais. Alors c'est vrai que le résultat contre Viry-Châtillon n'est pas pour nous, mais il y aura peut-être un électrochoc dès mardi contre Amiens, parce que là c'est notre championnat, le mois de janvier est très 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 important parce qu'il y a Amiens, il y a Nîmes, il y a Bordeaux, ouais. Ensuite il y a le derby contre Nantes, là il y a 5 matchs très très importants, il y a 15 points à prendre, on a 19 points avec donc 2 matchs en moins, ce qui est mieux que l'année dernière parce que on avait 18 points avec 19 matchs. Mais ça va peut-être justement les secouer, ouais. Et j'espère que les squids vont être tueurs au mois de janvier.
Stéphane, c'est pas Stéphane Moulin hein, qu'on a en ligne là.
Non, non, non. Pas être content, Stéphane Moulin.
Merci beaucoup Stéphane, en tout cas d'être passé sur RMC.
Ouais,
et on va parler dans un instant. En tout cas, reste avec nous, reste à l'écoute d'RMC puisqu'on parlera justement des clubs en difficulté. Ça sera l'une des questions de l'after. Ça sera vers 23h45. En attendant 23h17, on a parlé donc de l'exploit de Viry-Châtillon. On va saluer quand même cette équipe de Régional 1 qui sera donc au tirage au sort lundi pour les 16e de finale. Montpellier s'incline à l'entente Sannois-Saint-Gratien et Nîmes qui perd donc 3-0 contre Duchère,
très bon club.
Quand même. Nîmes qui a encaissé 3 buts sur coup de pied arrêté. Donc on sait que c'est une des forces peut-être des clubs justement inférieurs, les coups de pied arrêtés.
Pas spécialement en général.
Quand on travaille sans doute plus les coups de pied arrêtés, quand on est une équipe dite inférieure ou en tout cas d'un niveau inférieur.
Ouais,
on avait parlé en fait
avec l'entraîneur de
Pontivy qui joue le PSG demain sur RMC, il nous disait on va travailler les coups de pied arrêtés parce que si on a une chance de marquer c'est peut-être là-dessus.
Oui, nous aussi on travaillait beaucoup les coups de pied arrêtés, c'est pas pour autant qu'on les mettait pendant le match. Hein. Non, tu peux les travailler autant que tu veux, si l'adversaire dans l'agressivité de l'attaque du ballon est supérieur à toi, c'est beaucoup plus dur, mais bon. 3 buts quand même face à la Duchère, Nîmes, ça fait quand même beaucoup. Et on peut pas dire que Nîmes, ça fait longtemps et qui se la joue un petit peu parce que c'est un promu qui vient juste de monter. Donc prendre 3-0, c'est que la Duchère est un... Mais faut dire que Lyon-La Duchère est un très bon club.
Alors on va écouter Paul Bernardoni, qui est le gardien, qui était titulaire aujourd'hui et qui dit les choses assez clairement après la rencontre. Écoutez. Il va arriver dans un instant. Il y a Denis Bouanga qui a parlé du terrain aussi, qui était impraticable. Et on va écouter Paul Bernardoni tout de suite.
C'est pas qu'on les a sous-estimés parce qu'on savait que c'était un match compliqué. Mais voilà, dans les duels, on en a quasiment pas gagné un. Enfin voilà, c'était des choses au fur et à mesure du match, c'était révélateur de beaucoup de choses, quoi. Alors, je respecte énormément Lyon-La Duchère qui mérite sa victoire totalement. Et voilà, mais aujourd'hui, eux, ils ont fait un vrai match de coupe.
Et voilà, eux, ils ont fait un vrai match de coupe.
C'est pas compliqué, parce que dernièrement, on a vu en Ligue 1 un terrain trempé à Nîmes, qui était très dur à jouer, où Nîmes a gagné son match. Et là, on voit un terrain qui peuvent dire un terrain spécial, mais 3-0, on parle pas d'un 0 à la 92e.
Ce qui est étonnant quand même, c'est que les trois clubs de Ligue 1 qui sont sortis, Angers, Nîmes et Montpellier, au-delà de se trouver des excuses, ce sont trois clubs dont on ne peut pas dire que ce sont les clubs qui parfois jouent pas les matchs.
Tranquillement.
Ils jouent quand même les matchs à fond. Tous les matchs à fond.
Et leur force, à la
base. C'est quand même assez surprenant.
C'est l'envie, l'agressivité, la force de ces trois clubs.
On peut parler de nivellement aussi. On peut dire aussi que depuis quelques années, que ça soit sur le plan national ou sur le plan international, le niveau se resserre considérablement. Les clubs amateurs travaillent de mieux en mieux. Est-ce que les clubs pro stagnent ou ne progresse plus, on sent que le niveau se resserre, même au niveau international.
Se resserre, mais est-ce que c'est un nivellement vers le haut ou vers le bas?
Va savoir.
C'est la question que je te pose.
Mais moi, quand on regarde le championnat cette année, on peut penser que ça sera un nivellement vers le bas.
Moi, je dis surtout, t'as ces multitudes de joueurs que Ludo connaît, qui ont été sûrement au centre de formation avec lui, qui n'apparaissent ni en deuxième ni en première division, qui sont dans plusieurs villes. Et ils sont où ces joueurs-là? Ils sont où dans tous ces clubs qu'on voit en Coupe
d'Europe? Ils sont revanchards aussi
En plus revanchards et ils se disent moi aussi j'aurais pu. Et ils se rendent compte aussi qu'il leur manquait peut-être pas beaucoup pour aller de faire une carrière. Donc ils ont quand même le niveau à la fois physique, technique, l'envie, la préparation. Ils savent quoi faire face à ces équipes-là.
Alors, je voulais juste vous dire quand même que Metz s'est qualifié. Ça, c'était pour Ludovic. Victoire de Buzyn. Ça
n'a pas été facile.
Ça n'a pas été facile aussi. Hein.
2-1 après prolongation. Victoire aussi de Villefranche à Gravelines. 3-0 après prolongation. Et puis, la suite du programme, ça sera demain Marseille à Geoffroy Guichard contre Andrézieux, club de National 2 à 14h15. On suivra aussi sur RMC Monaco avec Naldo dans le groupe et le retour de René Lopez également au Canet en Roussillon. C'est un club de National 3. Mmh. Rennes-Brest, Reims-Lens, Bordeaux-Le-Havre. Olympique Strasbourg, Régional 2 contre Saint-Etienne, Toulouse-Nice, la seule affiche entre clubs de Ligue 1, ou encore Pontivy, club de National 3 face au PSG, ça sera à 20h45. Lille-Sochaux, dernier match des 32e de finale, ça sera lundi. On parle dans un instant du Mercato, de Monaco, de Fabregas qui devrait arriver bientôt sur le Rocher, et puis d'Adrien Rabiot. Est-ce qu'il doit quitter le Paris Saint-Germain dès le mois de janvier? A tout de suite sur RMC dans la foulée.
RMC Football Show, l'Afterfoot, François Pinet.
23h23, on est de retour sur RMC dans l'After, toujours avec Ludovic Obraniak et avec Ali Benarbia. Dans un instant, on va vous parler du Mercato. On a des infos à vous donner sur l'AS Monaco. Vous savez que l'AS Monaco est l'un des clubs les plus actifs depuis le début du Mercato. Ils ont besoin de renforts. Peut-être que Fabregas, c'est pour bientôt. On en parle dans un instant. Mais d'abord, Adrien Rabiot, à nouveau dans l'actualité, de retour à l'entraînement comme les autres jeudi. Ça, ce n'est pas une surprise. Mais il a posté une petite photo de lui sur les réseaux sociaux avec comme sous-titre, on le voit d'ailleurs, Adrien Rabiot, un grand sourire. Le sous-titre, c'est tout sourire. Hashtag best job, hashtag football is life.
Ça sent l'accord pour le, ça sent l'accord trouvé pour cet été, à mon avis.
Ah, tu penses que c'est ça? Tu penses que c'est pas une petite provoque vis-à-vis du PSG?
Si je mets ça, ça veut dire que j'aime le football, donc ça se peut que je vais jouer. Je vais me dire ça. Parce que si, l'accord, pas sûr qu'il puisse partir maintenant, moi.
Ben non.
Justement, avant d'en parler de ça, est-ce que Rabiot doit quitter le PSG dès janvier? Est-ce que le PSG doit libérer Rabiot dès janvier? Doit tout faire, en tout cas, pour qu'il s'en aille dès janvier?
Quel club serait assez idiot pour payer une indemnité de transfert maintenant?
Un club qui voudrait justement verrouiller la chose.
Aucun intérêt, je pense que les
ben, un club peut arriver.
Mais lui, il va faire jouer, lui, pour l'intérêt de partir libre, c'est de pouvoir négocier une grosse prime de signature. Donc lui, son intérêt, il est de signer au mois de juin, de trouver un accord là maintenant
pour signer au mois de juin.
Point.
Quitte à ne pas jouer pendant 6 mois.
Mais quitte à pas jouer pendant 6 mois, si t'as déjà trouvé un accord avec le Barça, je pense qu'il sera prêt à accepter de. De toute façon, il n'a pas le choix. Après, ça dépendra du PSG, du coach du PSG, de savoir est-ce qu'ils le remettent dans le groupe, est-ce qu'ils comptent sur lui malgré tout, ou est-ce qu'on le met carrément à l'écart. Ça, c'est le choix des dirigeants du PSG.
Mais la seule chose qui aurait pu le bloquer, c'est quoi? C'est un championnat d'Europe de l'action, une Coupe du Monde, voire l'équipe de France. Ce qui n'est pas le cas pour Rabiot.
Ouais, il y a la Ligue des Champions que tu vas rater. La Ligue des Champions.
Mais c'est non, mais si t'oublies le PSG, je parle. C'est pas ça.
Oui.
Si t'oublies le PSG, il y a des matchs et on sait que le sélectionneur, il te fait jouer si tu joues. Si tu joues pas pendant 6 mois.
Je veux dire, c'est la meilleure année pour faire ça, pour peut-être pendant 6 mois.
C'est pas la meilleure année, mais il n'y a pas quelque chose qui puisse le bloquer. Mais surtout, l'envie de jouer. Enfin, je sais pas. Moi, à ce niveau-là, un joueur comme lui, ne pas jouer au football à un niveau pendant 6 mois, c'est bizarre. Ce serait bizarre.
C'est un choix. Hein. Il est dans une posture où soit t'acceptes de re-signer, soit t'acceptes d'être peut-être mis à l'écart, parce que c'est comme ça, c'est la loi du haut niveau. Le message que tu fais passer aux autres joueurs, il est pas bon si tu le gardes et que tu continues à le faire jouer.
Exactement.
Malgré le fait que tu pourrais compter sur lui, malgré le fait que c'est une plus-value assurée, malgré le fait de plein de choses, par rapport au message que t'envoies, il est pas bon.
On va en reparler parce qu'on va écouter ce qu'a dit Thomas Tuchel aujourd'hui en conférence de presse.
Il a été clair.
Il a été clair?
Oui.
Je sais pas. On va décrypter ce qu'il a dit. On l'écoute et puis on en parle juste après. L'entraîneur allemand.
Il doit être professionnel et nous devons être professionnels tout ensemble. Moi, lui, vestiaire, tout le monde. C'est pas le premier joueur qui est dans une vestiaire avec une situation comme ça. Je suis convaincu qu'il peut rester professionnel, top professionnel, parce qu'il était top professionnel jusqu'en ce moment. Et j'attends ça de Adrien.
Bon, voilà, on a compris, il veut que son joueur reste professionnel.
Même s'il ne joue pas, c'est ce qu'il a voulu dire.
Il ne dit pas même s'il ne joue pas. Il
non,
dit
mais bon,
il y a d'autres joueurs qui sont dans le cas d'Adrien Rabiot et il fait référence très clairement puisqu'il en parle à Daron Ramsey, le joueur d'Arsenal qui est en fin de contrat en juin prochain et qui a joué là dernièrement. Mm-hmm. S'il est plus titulaire, il a joué, il a même marqué. Et Ander Herrera qui lui aussi est en fin de contrat avec Manchester United et qui pour le coup lui est titulaire avec Solskjaer. Donc la question forcément qu'on se pose, c'est est-ce qu'à un moment donné, Thomas Tuchel n'essaye pas de ménager un petit peu Rabiot en se disant je vais peut-être en avoir besoin, même s'il a signé dans un autre club dès janvier, les 6 prochains mois, il est avec nous et je peux peut-être en avoir besoin.
J'y crois pas une seconde. Après, dans la tête d'Adrien Rabiot.
Dans la tête de Tuchel, pourquoi tu n'y crois pas une seconde?
Il y a une cassure.
Mais parce que tu peux pas faire jouer un joueur qui est issu de la formation parisienne, qui refuse ou qui n'a pas trouvé d'accord avec son club formateur pour pouvoir être justement Tuchel qui lui avait donné les clés du camion, en début de saison, en lui filant le brassard, en faisant passer des messages comme quoi c'était son...
Ils ont tout fait pour.
Voilà, ils l'ont mis dans les meilleures conditions. Lui ne prend pas le PSG, lui a tendu la main, peut-être trop tard. En tout cas, la direction lui a tendu la main trop tard.
Je ne pense pas.
Ils se sont réveillés trop tard sur une éventuelle prolongation.
De partir du Paris Saint-Germain.
C'est difficile de dire, voilà, t'es joueur ici du PSG, tu décides de ne pas re-signer, mais tu vas quand même jouer. Je trouve que le message, il est clair pour personne. Aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde du football, c'est que voilà, tu refuses de signer, et ben on passe à autre chose, on va faire sans toi, et puis
aurait pu penser que le fait de l'écarter, c'était avant justement le mercato, c'était
pour l'obliger qu'il prenne une décision.
Le dernier ultimatum, voilà, des dirigeants du Paris Saint-Germain pour le forcer à prendre la décision de prolonger et après
et puis comment tu peux
pas
être
de le vendre
et puis
avec
comment tu peux être sûr un joueur qui vient de signer déjà dans un autre club. C'est-à-dire que sa tête, déjà...
Non, sa tête est ailleurs.
Était ailleurs. Et puis le risque, il se dit quoi? Attends, si je joue déjà pas, si je joue pas pendant 6 mois, on me fait jouer, par exemple, au mois de mars, quand on a besoin de moi, et je me blesse. Enfin, tu vois, c'est tous ces éléments-là qu'il faut prendre en compte. Pour un entraîneur, tu peux pas te mettre dans la tête du joueur. Tu peux pas faire confiance. Il y a des échéances trop importantes pour le Paris Saint-Germain cette année. Tu peux pas miser sur quelqu'un qui n'est pas sûr d'être investi à 100%.
Tu l'as dans ton vestiaire tous les jours. Parce que tu peux pas l'écarter du groupe.
C'est pour ça qu'il
l'a dit tous les jours. Tu l'as
vraiment
tous les jours.
C'est pour ça qu'il le dit qu'il reste professionnel. C'est-à-dire que tu ne joueras pas, mais que tu restes professionnel pour que tout se passe bien. Ça, c'est une chose. C'est le message qu'il a fait passer. Parce que les dirigeants ont pris la décision de... Maintenant, t'es au PSG. Les Paris Saint-Germain n'ont pas laissé partir un joueur, un bon joueur. Ils n'ont jamais laissé partir. Ils ont toujours prolongé, donné ce qu'il fallait au joueur pour qu'il soit content. Il a dit qu'il aimait le PSG. Il est issu du PSG. Il est titulaire. Et en plus, aussi bien, je pense, financièrement que footballistiquement, on lui donne les clés. Parce que je pense pas que les dirigeants qataris lui ont proposé juste des petites cacahuètes pour lui dire prolonge. Ah ben non, je suis pas content, je veux bien prolonger, mais on me propose plus ailleurs. C'est pas le cas.
Bah, en même temps.
Donc, c'est que lui a déjà fait son choix. C'est pas compliqué.
Ouais.
Il a Real Madrid, il a Barcelone, il a le Bayern ou quoi. Il se voit plus dans un plus grand club que le Paris Saint-Germain. Et sa décision est prise. Et je pense que là, les dirigeants lui ont donné assez de temps.
Paul est au 32-16 à 23h30 dans l'after sur RMC. Salut Paul.
Salut messieurs, comment ça va?
Salut Paul.
Ça va très bien. Supporter du Paris Saint-Germain, on parle encore d'Adrien Rabiot. Qu'est-ce que tu penses toi de notre débat justement sur Adrien Rabiot?
Ils veulent plus en entendre parler, les supporters parisiens.
Bah, justement, ouais, tu veux plus en entendre parler, Paul?
Si, ils ont le droit d'en parler.
Déjà la constante, c'est un peu comme dit Ludo, c'est qu'on veut plus trop en entendre parler. Nous, ce qui nous ferait maintenant, nous ce qui nous ferait plaisir, nous on s'en fiche de récupérer ou quoi une indemnité. Nous, ça nous ferait plaisir qu'il reste au placard carrément. Je pense que je crois que ça a fait l'unanimité là-dessus, comme il nous a bien brisé les bonbons, on va dire.
Ouais.
Il a eu ses propositions de revalorisation salariale. L'erreur qu'a fait le PSG, c'est quand ils ont fait la première, c'est pas de la faire à hauteur de ses exigences tout de suite. Mais bon, après, il me semble que les dirigeants se sont alignés un peu sur ce qu'ils demandaient. Lui a encore fait des siennes, donc je pense qu'avec l'image aussi qu'il a par rapport à l'équipe de France, tout ça, il a assez sali le club comme ça pour qu'on lui laisse encore des cartouches, quoi. Voilà.
Alors, tu auras le même discours si jamais, imaginons, hein, football fiction contre Manchester United, match retour, il faut gagner, et là il te manque Verratti parce que Verratti est suspendu et que malheureusement tu as un blessé, un Marquinhos ou un Draxler blessé. Est-ce que tu aurais le même discours? Tu te dis pas, bah mince, j'ai quand même Adrien Rabiot sous la main.
Franchement, là c'est vrai, comme tu dis, c'est du foot fiction. Je sais pas comment
ça peut arriver. Parce que
je réagirais à l'instant ouais. T. C'est vrai que tu réfléchiras à deux fois, mais je pense que même dans la tête de Tourelle, s'il peut s'en passer, il s'en passera. Et s'il reste dans le groupe jusqu'à la fin de saison, s'il peut ne pas le faire jouer, il ne fera pas jouer, c'est clair. Mais ça, il l'a décidé lui-même un peu avant, je crois, hein, un peu avant qu'il y ait encore ces dernières histoires.
Alors, d'après nos informations, c'est quand même une décision de la direction du club, hein, d'Antero Henrique, et des dirigeants du club, qui lui ont demandé à Thomas Tuchel de ne plus l'emmener dans le groupe. Ensuite, là, tu fais peut-être référence à ce qui s'était passé après Marseille, où il était arrivé en retard, qu'il avait été...
Puis je pense que déjà à cette époque-là, qu'il avait été décevant quand il était entré. Raison, dans le sens où lui savait les intentions du joueur quant à ses intentions vis-à-vis du PSG, et il s'était dit, ça sert à rien que je l'installe et que j'en fasse un métolier, si le mec, je sais qu'il va se barrer à la fin de la saison. Ouais.
Quel dommage, parce que le mariage aurait pu être formidable. Il a tout pour réussir à Paris, ce garçon. Ouais. Et en plus, enfin, cet entraîneur-là, j'ai senti au début de saison qu'il était vraiment fan du joueur, quoi. Il l'a mis en avant, il a tout fait. Il l'a bien caressé dans le sens du poil. Vas-y, que je te fais des louanges. Enfin, tu sentais que l'entraîneur comptait vraiment sur lui. Il est issu du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain est un club qui joue les premiers rôles. Bon, alors je suis peut-être un romantique parce que j'ai toujours moi l'esprit club, ça a encore une signification pour moi. Mais c'est tellement dommage que les choses ne puissent pas se faire. Je crois que ça, c'est un gros gâchis et pour le Paris Saint-Germain et pour lui, parce que l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. Et au vu de son état d'esprit, à Paris, il aurait pu être titulaire assez facilement, disons qu'il avait un rôle d'indiscutable. Là, quand tu vas commencer à rentrer au Barça ou ailleurs, attention.
Ça peut-être lui faire du bien.
Là, il y a la concurrence. Ouais, mais je suis pas sûr que ce soit quelqu'un qui accepte facilement la concurrence.
Il avait des portes ouvertes dans son club, Paris Saint-Germain, qui plus est pas le PSG que j'ai connu moi. C'est le PSG où c'est une armada de joueurs exceptionnels pour jouer le titre chaque année, plus la Champions League, plus financièrement être à l'abri par rapport aux autres concurrents, c'est-à-dire que t'avais tous les moyens et qui plus est t'es titulaire. Il n'était même pas en concurrence, il était titulaire et il aurait pu devenir un patron de l'un des meilleurs clubs, pas du championnat de France, mais d'Europe, avec aussi bien financièrement que avoir une armada de joueurs autour de toi pour gagner la Champions League et pour gagner chaque fois un titre. Donc il aurait pris en même temps plaisir en étant à Paris. Chez lui, au Paris Saint-Germain,
et quoi de plus beau pour un joueur qui a été formé, gagner. De réussir dans son club formateur. Il y a pas plus grande satisfaction.
Paul, tu voulais rajouter quelque chose?
Je pense que ce jeune homme, malheureusement, après quelques années maintenant qu'on le voit, je sais pas si c'est son ego ou celui de son entourage qui le fait un peu éclater comme ça au niveau de l'équipe de France, au niveau de maintenant sa situation au PSG.
Et tu sais, on peut pas toujours mettre tout sur le dos de l'entourage, hein, c'est un grand garçon.
Oui,
hein.
C'est pour ça que
il est en capacité de pouvoir prendre des décisions.
Il y a une histoire d'ego là-dedans, je crois, qui est un peu surdimensionnée par rapport à ce qu'est ce joueur encore à l'heure actuelle, quoi. Qui n'a pas bouvé non plus des masses, c'est pas Xavi, c'est pas Iniesta.
On est d'accord. Merci beaucoup Paul d'être passé sur l'AMC. Bonne soirée à l'écoute de l'After. On va parler maintenant du mercato des clubs actifs et notamment de l'AS Monaco, puisqu'hier on parlait de Naldo.
Ils sont plus qu'actifs.
Ouais, défenseur brésilien de 36 ans. Alors l'officialisation de Naldo,
il y a eu,
il sera dans le groupe, c'est la seule officialisation.
Oui.
Sinon, on parle de Fabregas et de Pep qui pourraient suivre. Alors pour Serge Fabregas, on a vu une image aujourd'hui. C'était clair. Chelsea à Nottingham. Fabregas qui était titulaire et capitaine pour l'occasion.
On sait qu'il va partir. Ça, c'est une certitude.
Il a été ovationné au moment de sa sortie du terrain, au moment où il a laissé sa place. Ça ressemble évidemment très fort à des adieux.
Il a payé sa larme en plus. Donc,
Donc il va partir. Il serait tout proche d'un accord avec l'AS Monaco. À suivre évidemment Fabregas, Ali à Monaco.
C'est le top.
Ça te plaît?
Ah, mais c'est le régal.
Déjà à Monaco et puis en Ligue 1, on peut qu'être heureux d'avoir.
Moi, je vais dire à Monaco. c'est encore mieux. Oui. Avoir Fabregas à Monaco, surtout en ce moment, c'est un joueur qui a la capacité à jouer devant la défense maintenant, avec son âge, en numéro 8, en numéro 10, à réguler un petit peu les joueurs. On l'a vu encore aujourd'hui face à Nottingham Forest, il s'est accéléré, il s'est ralenti, il s'est gardé le ballon, il panique pratiquement jamais. C'est ce qu'a besoin Monaco. Ouais. Monaco a besoin de ce joueur en milieu de terrain, en sachant qu'en plus, tu récupères Naldo en défense, il leur manque plus qu'un attaquant, et dans la lignée, si Subasic revient, tu as une colonne vertébrale pratiquement fraîche.
Puis c'est quelqu'un qui a la science du jeu. C'est quelqu'un qui sait gérer parfaitement.
Il a du caractère aussi.
Tant fort, tant faible. Il sait réguler parfaitement le rythme d'un match. Et on le voit, l'AS Monaco a beaucoup de mal. Ça va beaucoup d'un but à l'autre.
Ils
ont du mal à contrôler le jeu.
Subit tout le temps.
Rajouter ce joueur, ça, avec sa qualité technique, sa vision du jeu au milieu de terrain, c'est une plus-value énorme pour la seconde partie de saison de l'AS Monaco.
Et une énorme surprise quand même de le retrouver à.
C'est une énorme surprise parce que malgré
Monaco dans un club
on va pas se mentir.
Monaco est très jeune, hein, même s'il a 31 ans.
Monaco, on peut pas parler d'aujourd'hui de. Tu peux pas attirer un joueur, un tel joueur. Que sur le plan sportif.
Non.
C'est-à-dire que le bourbier dans lequel tu es, la jeunesse de l'effectif, fait que forcément, il y a des avantages sur le plan financier.
C'est-à-dire qu'il arrive, il s'offre une retraite dorée.
Non, il s'offre pas une retraite dorée, je pense pas, parce que c'est un garçon,
c'est un garçon qui est très professionnel, très sérieux. Il y a pas longtemps. Et qui a été champion.
Je pense que pour une retraite dorée, il aurait pu aller voir ailleurs.
Même en Chine.
Je pense que le fait que Thierry Henry soit là aussi, ça a pu avoir une influence
le salaire qui est net d'impôt qui est intéressant. Déjà, je pense qu'à Chelsea, il touche pas des cacahuètes, mais en plus de ça, il a Thierry Henry qui va savoir le gérer par rapport à son âge. Ces derniers temps, il jouait pas. Là, il est sûr que il va tout faire en sorte pour qu'il sente bien, qu'il joue bien.
Ronaldo, Pep, lui, le retour de Ronny Lopez
avec
Falcao qui va être un peu regonflé avec l'arrivée les nouvelles arrivées.
Si Libé peut revenir,
t'as des joueurs quand tu joues le maintien comme ça, tu peux pas refiler le bébé aux jeunes en disant voilà, maintenant il faut sauver l'AS Monaco et démerdez-vous. T'es obligé d'avoir des cadres, des tauliers. Alors, on va dire que Naldo a tel âge, que Fabregas pareil, mais
c'est 35 ans, hein, puisque tu l'as évoqué, le défenseur portugais, mais c'est une sacrée expérience, champion d'Europe avec le Portugal, triple vainqueur.
L'expérience est nécessaire pour gérer cette deuxième partie de saison.
Tu enlèves qui alors?
Tu vois juste Font, ce qu'il fait à Lille.
Ouais.
Pourtant, Font, c'est pas Pep, il a pas fait les matchs qu'a fait Pep au Real Madrid. Il a bloqué pratiquement toute la défense de Lille à lui tout seul. Il les a rassurés. Il sort tout le temps sur le numéro 10. Et voilà, le problème est pratiquement réglé à Lille avec un joueur qui est arrivé de Chine.
Mais Pep Naldo, c'est pas le plus rapide, hein.
C'est pas le plus rapide, mais l'intelligence de jeu.
On l'a vu, hein, à Monaco, t'as des jeunes, ils sont rapides, je le dis. Hein. Ça les a pas aidés.
Je peux te dire que Naldo, que j'ai eu l'occasion de voir jouer lorsque je jouais au Werder de Brême,
Il faut essayer de faire le tour.
Il n'a pas besoin d'être rapide parce que c'est une tour de contrôle.
Et puis, il faut faire le tour.
Il faut faire le tour déjà pour commencer. Et puis la science du jeu, l'intelligence du jeu, le placement, il compense largement son manque de vitesse. Mm-hmm. Avec Pep qui va être là pour apporter l'agressivité, le leadership, qui est pas maladroit avec le ballon non plus.
Mm-hmm. Naldo dans les coups de pied arrêtés... Ça va faire la différence.
Je pense que les supporters monégasques.
Eh ben justement, on va demander à Mathieu, 32-16, ce qu'il en pense, supporter de l'AS Monaco. Salut Mathieu.
Salut les amis.
Salut Mathieu.
Alors Ludovic disait, je pense que les supporters monégasques sont.
Ils sont plutôt ravis des noms qu'ils entendent là, parce que récupérer des tels noms dans un mercato où il n'est jamais facile d'attirer ce type de joueur. Je pense que c'est une belle plus-value qui va être ajoutée à cette équipe et ça redonne de l'espoir. Pour le maintien de l'AS Monaco.
Complètement. Après, est-ce que PP c'est une formation officielle ou
non?
Non, c'est pas officiel, mais bon.
D'après Sky en Italie, il y a des rumeurs donc d'accord entre PP et l'AS Monaco. C'est pas encore officiel.
Fabregas non plus d'ailleurs.
C'est pas encore officiel non plus. Ça se rapproche pour Fabregas, c'est tout ce qu'on peut vous dire. PP faudra peut-être attendre un petit peu, mais il est libre de tout contrat depuis la rupture de son contrat avec Beşiktaş.
Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais quand il y a eu le renouveau de Monaco, quand on était en Ligue 2 et qu'on est monté en Ligue 1, on a recruté Abidal, Carvalho, Pepe, Naldo. Ça me fait penser à ce genre de charnière, c'est-à-dire des joueurs assez anciens, mais tellement intelligents dans le sens du placement qu'ils n'ont pas besoin de faire 10 000 km dans un match pour comprendre comment il faut bloquer un ballon et bloquer sur l'homme, en fait. Et c'est une défense d'expérience, une charnière qui a brillé dans leurs championnats respectifs. Ils ont brillé tous les deux, hein, au Real Madrid, l'autre en Allemagne. Et pour moi, ces deux-là, c'est deux monstres. Franchement, Pepe, moi, j'adore ce joueur parce que c'est autant en dehors du terrain, c'est un mec super, mais sur le terrain, mais enfin, en tant qu'un attaquant, on a envie de le tarter tellement il fait mal sur l'homme, quoi. Il est vraiment très fort.
Non, mais puis au-delà de ça, c'est des joueurs de caractère. C'est des joueurs qui veulent
gagner
dans une situation comme ça d'urgence. Ils vont avoir cette capacité à gérer la pression, mais à insuffler, à pousser les autres à être meilleurs. Ils vont tirer tout le monde vers le haut parce que ces joueurs-là ont connu le niveau, l'excellence partout où ils sont passés. Et je peux pas croire qu'une seconde, malgré leur âge, malgré le fait qu'ils changent de championnat ou quoi, c'est des joueurs qui ont une exigence extrême envers eux-mêmes et je suis persuadé qu'ils vont emmener tout le monde dans leur sillage si toutefois ça devait se faire.
Thierry Henry avait besoin de relais aussi hein, sur la pelouse. Hein. Il en manquait clairement. Hein.
Pour un entraîneur qui n'avait pas d'expérience du tout, arriver, se retrouver qu'avec des jeunes qui sont complètement perdus et des joueurs qui sont arrivés aussi.
Mais il avait un joueur relais perdus. Comme Falcao, mais qui.
Non, mais oui, mais Falcao.
N'a peut-être pas le même caractère qu'un Pep ou.
Un relais, c'est un milieu, un défenseur central. Un attaquant comme Falcao a besoin d'aide pour finir les actions.
De soutien. Non, mais
de
même
marquer.
De...
C'est pas lui qui doit être le relais. C'est pas Falcao qui doit le relais. Ça va être le joueur qui est tout là. Et je l'ai vu faire du pressing et tout. Alors que ce n'est pas Falcao de le faire.
Il porte le poids de tout sur ses épaules. Là, il va trouver des coéquipiers, des amis sur lequel il va pouvoir s'appuyer. Parce que Pep, je peux te dire qu'à un moment donné, ça va plus ronronner. Enfin, tu voyais tout le monde baisser la tête. Mm-hmm. Je peux te dire que lui, si les résultats ça suit pas, il va leur souffler dans les bronches. Hein, jeune, pas jeune. Ça va insuffler quelque chose de nouveau.
Mm-hmm. Ouais. Moi, je vais vous dire, pour l'AS Monaco, depuis le début de la saison, le gros problème, c'est la relance au niveau de la défense. Jemerson, Glick qui est en dedans, et le petit Badiachil. Qui débute mais qui est quand même trop jeune et trop frêle pour endosser le dossard de on va dire de taulier. La relance à Monaco,
ben avant, c'était
de la
Fabinho,
défense
c'est ça,
à l'attaque,
c'était Fabinho.
Bien sûr, avant c'était Fabinho, aujourd'hui il cherche le terrain et il saute deux lignes à chaque fois pour chercher Falcao qui est scellé de ballon parce qu'il est seul devant. Donc c'est logique que ça ne marche pas. Avec ces deux-là derrière, déjà les relances ça va être beaucoup
et puis
plus
Fabregas, la relation technique avec Golovin, Rony Lopez, Falcao qui va reprendre un peu du poil de la bête parce qu'il va se sentir soutenu.
J'ai peur que ça soit lui la victime de l'arrivée d'un Fabregas.
Pas,
hein.
Parce que un Fabregas à côté, tu le reconnaîtras pas. C'est toujours beaucoup plus facile. Quand tu joues avec des très bons joueurs qui comprennent vite, qui te la donnent toujours au bon moment et qui se déplacent toujours là où il faut, ça te transforme un joueur qui est à côté de toi.
Celui qui peut justement endosser les frais, c'est plus Aïd Benacer.
Bah oui, forcément.
Qui lui est très bon techniquement hein, quand il a le ballon au pied, mais
mais il joue trop arrêté. Le problème d'Aïd Benacer est bon techniquement, mais si à chaque fois tu reçois le ballon dans les pieds, tu donnes dans les pieds, t'es arrêté, tu fais pas avancer. Et le décalage, la différence avec Fabinho, c'est qu'il avait la faculté à donner quand il fallait et hop, il se déplaçait toujours entre deux. Et c'est ce qui fait que tu as ce fameux décalage en triangle qui fait que tu joues verticalement, ce qui n'est pas le cas d'Aïd Benacer.
Je le cite, mais honnêtement, le retour de Rony Lopez, il va faire un bien fou.
Faudra voir dans quel état.
Un joueur qui n'était même pas titulaire, qui était remplaçant, qui devient un joueur important maintenant.
Je peux dire que ça va faire énormément de bien. Tu peux le considérer comme une recrue, lui. Ouais.
Merci beaucoup, Mathieu, d'être passé sur RMC dans l'after.
Juste une petite question. Vous, en tant que consultant, est-ce que vous pensez qu'il faut recruter un autre attaquant en doublette de Falcao devant?
Mais pas spécialement qu'en doublette, un deuxième attaquant, parce que tu n'en as pas. Jovetic, faut l'oublier. Quel est l'autre attaquant qui peut aider ou jouer avec Falcao ou remplacer Falcao quand il va pas bien? Il y en a aucun.
C'est le jeune Silla qui a été essayé.
C'est ce que je veux dire.
Essayé qui est trop jeune.
Il n'a pas démérité d'ailleurs. Hein.
Oui, il n'a pas été
le jeune, mais oui, je pense qu'il faut donner un peu il faut suppléer Falcao et je pense qu'il y a des coups à faire en prêt notamment parce que là c'est vrai que
c'est Monaco, hein.
Ouais.
Mais beaucoup plus que suppléer.
Pourquoi pas, oui, c'est le type d'attaquant qui pourrait
beaucoup
être.
Beaucoup plus que suppléer Falcao.
Ouais.
Si t'as un bon, Ça permet à Falcao de pouvoir se démarquer. Exactement. Et faire ce qu'il fait de mieux.
Puis lui, il aime maintenant venir au jeu. Il faudrait quelqu'un qui soit, lui, tourne autour et que quelqu'un qui prenne un peu plus la profondeur. Mmh. C'est vrai que Michy serait un parfait candidat.
Merci Mathieu, merci d'être passé dans l'after. À très bientôt et bonne soirée à toi. D'autres infos au Mercato à retrouver sur le site rmcsport.fr. On parle notamment de Gaël Kakuta qui pourrait faire son retour à Amiens. Voilà, je vous donne cette petite information. Il n'aurait pas dû partir. Il était au Rayo Vallecano et visiblement il se rapproche d'Amiens pour remplacer sans doute Ganzo. On revient avec les questions de l'after dans un instant. N'hésitez pas à nous joindre sur Twitter, hashtag RMC Live ou encore au 32-16. Est-ce que virer un entraîneur peut permettre à un club d'inverser la tendance? Voilà la question qu'on vous pose. À tout de suite sur
RMC Football Show. L'After Foot, François Pinet.
23h48 sur RMC, dans l'After. On est ensemble jusqu'à minuit avec Ali Benarbia, avec Ludovico Bragnac. Toujours là, on vous attend au 32-16 sur le hashtag RMC Live, sur l'appli RMC Direct Studio. Tout de suite, la question de l'After. Voilà, l'une des questions avant la reprise de la Ligue 1 la semaine prochaine. On va parler un petit peu du maintien. Est-ce que virer un entraîneur peut permettre d'inverser la tendance? Vous savez que les trois derniers du classement ont désormais changé d'entraîneur. On ne connaît pas encore l'identité du coach qui va remplacer Olivier Dalloglio, qui a quitté Dijon lundi dernier. C'est l'adjoint David Linares qui fait l'intérim pour l'instant. Monaco a changé Jardim par Henry. Et puis le 20e, Guingamp a remplacé Antoine Comboiré par Jocelyn Gourvennec. Il y a Angers, 15e, Caen, 16e, Amiens, 17e, qui sont aussi dans cette zone un petit peu dangereuse. Est-ce que pour vous, quand on est président de club...
Beaucoup plus que virer, c'est remplacer.
Oui, mais pour remplacer, faut virer avant.
Oui, je sais. Moi, je préfère remplacer parce que on part sur la question pour savoir si est-ce que ça va faire du bien ou pas. Donc c'est remplacer.
Je vois ce que tu veux dire. Mm-hmm. Donc tu es dans la tête du président de Dijon, tu te dis
il faut qu'il fasse quelque chose.
Il fallait de toute façon changer quoi qu'il arrive pour bouger.
Ce qui est assez bizarre, c'est que Dalloglio, ça fait longtemps qu'il est à Dijon, il fait un super travail. On a bien vu le début de saison. Pareil, il fait un super travail avec Dijon en début de saison. Et puis là, puisqu'il n'a plus du tout de résultats, tu lui dis t'es super fort, t'es bien, ça et tout, mais t'as plus de résultats, donc je t'enlève. À savoir si ça va faire du bien, je sais pas, c'est assez bizarre. Est-ce que Dijon n'a pas fait ce qu'il fallait au niveau de l'effectif par rapport à son entraîneur? Est-ce qu'il leur a demandé peut-être quelques joueurs qu'il n'a pas eu? Puisqu'il débute bien par 3 victoires,
ouais.
Dijon. 3 victoires d'affilée, et il disait même dans la Ligue, on l'avait eu à l'after, ah ben c'est bien qu'on engrange des points, on va se sentir beaucoup mieux, peut-être pour faire quelque chose de mieux. Et puis là, d'un coup, le coach disparaît.
Donc et quand on a eu Olivier Delcourt, le président de Dijon, au moment de l'annonce donc de la séparation avec Dalloglio, il nous a dit pour le profil de l'entraîneur que c'était pas forcément le profil Dalloglio, qui est un entraîneur qui aime le foot, en tout cas qui aime jouer, qui aime faire jouer ses équipes. C'était le profil vraiment, voilà.
Oui, pragmatique,
commando, méthode commando pour sauver Dijon.
Qu'est-ce que ça veut dire méthode commando? Ça, il faut qu'on...
Quelqu'un qui réveille le groupe. Écoute, t'as marché avec Nantes en tout cas.
La question elle peut être tournée de toutes les manières. T'as des exemples qui prouvent que oui, et t'as des exemples qui prouvent que non. Et encore là, on l'a vu dernièrement, t'as Ricardo qui remplace à Bordeaux Gustavo Poyet. C'est pas vraiment mieux, mais c'est pas moins bien non
après,
plus.
Après, c'était pas un club qui était voilà. Dans les bas-fonds.
T'as Julien Stella
qui remplace à Guingamp. On voit pas une grande différence
non.
Entre l'arrivée de Jocelyn Gourvennec
et de Comboiré.
Antoine Comboiré. Tu vois un changement radical à Rennes.
Ouais.
Donc tu vois, tu as des exemples et des contre-exemples. Après, l'histoire raconte que quand tu changes, il y a l'effet psychologique, du moins à court terme.
Pour les joueurs,
mais
redistribution des cartes pour les joueurs.
Un peu, je constate que sur le long terme, c'est pas si évident que ça.
Vous l'avez déjà vécu, vous, dans vos clubs?
Oui.
Changement d'entraîneur comme ça, brutal, ouais. Et ça a eu un effet?
Non, je pense pas qu'il y ait vraiment eu un effet. Maintenant, après...
C'était quand, toi, Ali?
Il y a eu PSG, Bergerot par Luis Hernandez.
Ouais.
Mais dans le championnat, il n'y a pas eu un gros effet. On sentait que Bergerot n'avait plus la main, et que Luis Hernandez est arrivé, et que ça a été cette saison, elle a été dure. Il a fallu qu'après, quand lui, ça a repris la saison d'après, pour repartir de zéro, pour que ça se passe... plus ou moins bien, mais c'est pas pour autant qu'il y a eu d'un coup un gros changement total.
Ce qu'il y a d'important, c'est quand il y a un nouvel entraîneur, les cartes sont redistribuées.
Oui, c'est surtout ça.
C'est-à-dire que ça recrée une concurrence qu'il n'y avait plus ou qui n'existait plus quelques semaines avant. C'est-à-dire qu'un entraîneur, au fil du temps, il a un 11 type qu'il dégage, c'est souvent les mêmes. T'as 13-14 joueurs qui rentrent dans une rotation et le reste peut paraître des fois démobilisé. Donc avec l'arrivée d'un nouveau coach, les cartes sont redistribuées et tout le monde se remet en question, tout le monde veut montrer, tout le monde, donc il y a effectivement cet électrochoc qui permet à tout le monde de vouloir se montrer
le
et de dire
d'avoir le groupe du nouveau coach.
Voilà, mais les joueurs, on est aussi parfois des mauvais élèves, hein. On retombe vite dans nos mauvaises habitudes. Et il faut qu'il y ait un coach qui ait de la poigne, donc du caractère. Et dans ce genre d'exercice, c'est-à-dire dans des clubs qui jouent comme ça, il faut redonner de la confiance. Donc déjà, il faut avoir, ils ont une main de fer dans un gant de velours, c'est-à-dire qu'il faut ramener du ludique, ramener de la confiance, mais tout en étant strict sur les règles de vie, sur l'état d'esprit, sur plein de choses. Et ça, c'est pas facile à faire, parce que quand il faut mobiliser comme ça 25 joueurs, il faut arriver à avoir ce tempérament.
C'est la réponse face aux joueurs aussi.
Exactement.
Parce que tu peux
Il faut pas se tromper. Il faut vraiment pas se tromper sur le profil de l'entraîneur.
Comment tu fais?
Alors, on va demander justement à Romaric, avec nous au 32-16, supporter de Dijon. Peut-être qu'il a une idée sur le profil du futur entraîneur de Dijon. Bonsoir, Romaric. Merci beaucoup d'être dans l'after.
Bonsoir, Romaric. Salut François. Salut Ali. Salut Ludo. Bonne fête à tous.
Bonne année à tous.
Voilà, meilleurs vœux.
Alors, donc, supporter de Dijon, avec donc ce changement de coach, ça a dû te faire bizarre, hein, puis ça faisait longtemps qu'Olivier Dalloglio était aux manettes.
Bah écoute, ce qui est difficile déjà à prendre, c'est que Dalloglio se fait dire un 31 la veille du réveillon. C'est un peu trash, mais bon,
alors,
après, voilà.
Pour avoir parlé avec Olivier Delcourt, il nous a dit quand même que s'il avait pris cette décision le 31, c'était pour pas la prendre avant Noël, parce qu'il avait déjà dans sa tête peut-être de se séparer de Dalloglio, mais c'était juste avant les fêtes, après la défaite contre Saint-Etienne.
Vous voulez passer un bon jour de l'an, quoi.
Non mais les gars, pour être franc un petit peu, pour connaître un petit peu ce qui s'est passé, je sais que Delcourt et Dalloglio avaient une relation très franche. Ouais. Donc je pense que ça, voilà, ils l'ont dit de manière assez assez difficile pour Dalloglio.
C'est quoi ton avis, toi? Tu aurais voulu qu'il continue ou tu penses que c'était le moment de passer à autre chose?
Écoute, en toute honnêteté, pour être un vrai supporter de Dijon et bien suivre ce qui se passe, je crois que Dalloglio est malheureusement au bout de 6 ans, n'était plus trop respecté par rapport à ses joueurs, par rapport à l'ambition qu'il avait envie de faire par rapport au club. Il y a beaucoup de joueurs jeunes qui sont très demandés. Je pense à Rosier, par exemple, qui est très courtisé en Angleterre. Avait envie, je pense, plus de se montrer de manière individuelle que collective. Ouais. Ce qui fait que Dijon, qui avait un collectif très poussé vers l'avant, vers l'offensif, en se disant bah, « Écoutez les gars, on donne tout pour marquer des buts », eh ben, les mecs ont voulu tirer la couverture vers eux-mêmes pour se montrer, et je pense que du coup ça a périclité d'un point de vue technique et on a perdu énormément de cohérence.
Parce qu'on on peut quand même dire que vous avez un groupe de qualité
qui peut facilement se maintenir.
Ah ben Ludo, Ludo, moi je suis d'accord avec toi.
J'ai joué avec Sliti, j'ai joué avec Balmont, je connais bien Yogurkuf, Tavares, enfin
il a pas joué
Pour Ali Lénardien, on a quand même un joueur qui est au milieu de terrain, qui est pour moi extraordinaire, qui est sous-côté, c'est Mehdi Abed, qui est vraiment exceptionnel, c'est vraiment un très très bon joueur.
Dommage qu'il s'est un petit peu blessé une ou deux fois là, mais parce que c'est un super joueur.
C'est la défense, le problème chez vous cette année.
En problème, notre problème est pas que cette année, Ludo, les dernières, c'était le même problème. On a perdu Cédric Varro, tout le monde critiquait Cédric Varro, mais Cédric Varro, avec son bagage et sa technique, et malgré tout, il était très très technique pour un défenseur, était bon. Et là, on a besoin d'un mec, enfin, excusez-moi les gars d'en parler, mais je pense qu'on parle beaucoup d'un entraîneur. Il nous faut un mec différent d'un Camboiré ou d'un Girard ou d'un Duprat qui ne voit que par la défense. J'ai pas envie d'avoir un entraîneur.
Courbis.
Mais bien sûr qu'il nous faut Courbis. Mais bien sûr. Si Monsieur Delcourt m'écoute, c'est Courbis qu'il nous faut. C'est flagrant. On a un effectif, d'ailleurs, il l'a dit, qui ne mérite pas d'être dans les trois derniers. Je suis entièrement d'accord avec lui. On a des joueurs devant. Ludo en a parlé. Sliti qui a une patte gauche exceptionnelle. On a des joueurs qui sont capables de marquer des buts comme Tavares. Je pense que c'est dommage que notre équipe soit réduite à se dire bah écoutez on va défendre, on va jouer comme, je suis désolé, Angers ou Amiens, enfin pas Amiens mais Angers, c'est une bonne équipe qui défend bien. J'ai envie que mon équipe elle joue du foot quoi, et qu'elle se sauve par le foot.
Je suis déçu parce qu'ils se sont trompés dans le recrutement, et même peut-être moi j'aurais fait cette faute là parce que, alors sans mauvais jeu de mots, je pensais vraiment que Simon allait cimenter la défense dijonnaise, parce que c'est quelqu'un j'ai eu l'occasion de suivre un peu en MLS.
Mais la moutarde n'a pas pris.
Et voilà.
Non, sans parler de moutarde. Bravo. Je peux me permettre, Ludo, Ludo, en France, on a un truc, c'est que les attaquants en France, les équipes en France jouent beaucoup en contre-attaque. On a des joueurs qui sont très rapides. Simon, il joue en MLS. La MLS, c'est très bien.
Ouais. C'est très physique.
C'est très lent. Et c'est très physique. Et c'est très lent. Ce qui fait que, dès qu'il y a un ballon en profondeur par-dessus la défense, Simon, il se fait avoir.
Pour être un spectateur assidu de la MLS, on peut jurer que c'est pas lent.
Ouais.
Ben, je peux te jurer que là depuis quelques années, t'as des attaquants qui arrivent là, les White Phillips, le petit Martinez à Atlanta et compagnie.
Même d'Amérique, ça va à 2000 à l'heure. Simon, malheureusement, le problème de techniquement, il est bon. Il est bon de la tête, c'est un très bon joueur, mais vraiment ça se voit que techniquement il est au-dessus des autres défenseurs. On a Yatabaré à côté qui est en dessous. Attends, je vais pas terminer. On a Yatabaré qui est en dessous techniquement, mais physiquement il est au-dessus. Et Simon, il n'avait pas ce niveau-là là, dans les courses, il avait du mal.
Merci beaucoup Romaric, hein. Désolé de te faire un peu, on est pressé par le temps. Merci beaucoup à vous pour l'after. Merci.
Bonne soirée à vous.
Bonne soirée. Merci beaucoup Ali.
Avec plaisir.
À bientôt.
À bientôt
sur RMC dans l'after demain.
Non.
Ah oui, la semaine prochaine.
Exactement.
Mais dans les GG.
Oui, demain matin.
Voilà, Ludo, à bientôt.
À bientôt.
Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Je rappelle que demain à suivre sur les antennes de RMC, la Coupe de France et juste après Pontivy PSG, eh bien il y aura l'after encore une fois avec Gilles Darbribois qui sera aux manettes, le grand patron
et le retour. Le patron.
Eh oui, il est de retour un jour avant la rentrée des émissions
comme
sur RMC. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis et bonne soirée sur RMC. À bientôt.
RMC Football Show, l'After Foot.